Thanks to everyone who donated to CKUT's annual funding drive. Your generosity truly helps keep our engines burning. It's never too late to donate. You can do so by calling 514-907-9424 or going to ckut.ca and hit the green Make a Pledge button at the top. All paid entries will be entered into a grand prize draw. You can pay your pledge and pick up your gift weekdays between 11 to 6 p.m. or by appointments. Call 514-907-9424. Thank you.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir, si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique de la clinique juridique de Saint-Michel qui traite de profilage racial. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qu'on a eu la chance d'avoir l'année passée également. Donc Bouchra Manai qui est commissaire aux luttes antiracistes à la ville de Montréal. Donc bienvenue Bouchra, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous.
Donc, comme je l'ai mentionné, on a eu la chance de recevoir Bouchra l'année passée également. Donc, aujourd'hui, on va faire une espèce de petit recap de ce qui a été fait entre-temps, depuis un an, en fait. Mais d'abord, je vais faire une brève introduction de notre invitée. Donc, Bouchra, comme je l'ai dit, elle a fait des études elle a un doctorat en études urbaines, pardon. Également, elle a été chargée de cours, coordonnatrice. Elle a également été directrice générale de Parole d'exclus. Elle a également écrit un roman qui s'appelle Les Maghrébins de Montréal, où est-ce qu'elle interroge la relation entre l'ethnicité et ses frontières et définit ainsi la maghrébinité dans le contexte québécois. C'est une militante dans la lutte contre le racisme. Et enfin, comme je l'ai mentionné, elle a été nominée à la ville de Montréal à titre de commissaire aux luttes antiracistes en janvier 2021. Donc, c'est une invitée, bien sûr, de qualité. On aime beaucoup parler à Bouchra. Et puis, aujourd'hui, on va un peu, c'est ça, démystifier le rôle du bureau de la commissaire et on va parler également de l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en ce sens. Donc, comme première question, Bouchra, en quoi consiste le rôle du bureau de la commissaire?
Alors, merci Lina pour la question. Merci pour l'introduction aussi. J'ai l'impression qu'on est en train d'établir une tradition. J'aime beaucoup les traditions, puis
oui.
Je pense que c'est important d'avoir des moments justement de discussion, d'échange, puis de, tu sais, de retour. On l'avait dit dès le départ, je pense même dès la première rencontre l'année dernière, on s'était dit mais c'est quoi les espaces de conversation pour assurer une transparence sur le travail du bureau. C'est comment on s'assure que les Montréalais de la diversité, puis les Montréalais qui ont parlé à l'OCPM il y a déjà 2 ans, ben eux ils aient en fait un retour sur ce qu'ils ont évoqué comme étant des enjeux de racisme puis des enjeux de discrimination systémique dans la métropole. Fait que je suis ravie de le faire avec vous. Mm-hmm. Peut-être je voudrais mentionner à tout le monde que on a publié l'état d'avancement de l'année 2021. Donc l'état d'avancement, c'est on est parti de toutes les recommandations de l'OCPM, je le rappelle, pour le bénéfice de toutes et tous. L'OCPM, après une consultation publique je pense que c'était quasiment 16 arrondissements, des milliers de Montréalais. Ils avaient établi que 38 recommandations étaient, on va dire, le point de départ du travail de l'administration sur les enjeux de racisme et de discrimination. Mm-hmm. Ces 38 recommandations recouvrent des enjeux très, très, très diversifiés. Je sais que le podcast s'intéresse plus spécifiquement à la question des profilages et des enjeux de sécurité publique, mais l'OCPM a mentionné beaucoup d'enjeux de ressources humaines à la ville de Montréal, des enjeux avec la question de la culture, donc l'équité culturelle, toute la question de l'analyse des données. Donc, comment on s'assure comme administration d'avoir des données avec une perspective ADS+, sur la et des Montréalaises, notamment issus de la diversité et des populations racialisées. Il y avait tout un volet de participation citoyenne inclusive. Donc, je pense que c'est quand même important de mentionner que, initialement, l'OCPM a brossé comme une sorte de portrait à partir duquel l'administration devait travailler. Depuis une année, quand je suis arrivée, mon mandat à moi, le mandat qu'on m'a donné en tout cas, c'est un mandat d'accélération de la transformation organisationnelle. La ville de Montréal a reconnu, c'est la première des recommandations de l'OCPM, puis on y reviendra, elle a reconnu la perspective systémique du racisme. Recommandation numéro un de l'OCPM, c'est reconnaître que le racisme et les discriminations systémiques donc, sont réelles et factuelles à la ville de Montréal et dans la métropole, et donc travailler en ce sens. L'état d'avancement, c'est un peu une façon aussi de dire au monde, voici tout ce qui a été fait par tous les services. Parce qu'en réalité, le rôle du bureau, c'est d'être comme une sorte de chef d'orchestre. En ce moment, je me sens beaucoup chef d'orchestre avec des gens qui répètent, puis qui doivent préparer, puis qui... Mais en même temps, on écrit en même temps la musique. C'est assez paradoxal parce que dans le fond, c'est un chemin qui s'est fait c'est chemin faisant qu'on amène cette transformation-là. Et le bureau, vraiment, son mandat, c'est d'appuyer les services. C'est de s'assurer que faire se fasse et de s'assurer que les services prennent ça au sérieux. S'ils ne comprennent pas, ben, on est là pour leur expliquer. Et ben, si ça ne marche pas, ben, on est là pour s'assurer que ça marche. Fait que c'est sûr qu'au bout d'un an, y a comme une sorte de bilan qui peut être fait. Puis nous, ce qu'on a sorti, c'est en lien avec les recommandations. Mais je vais être bien honnête avec vous. Ce chemin de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, ce sont des montagnes russes au quotidien. Mm-hmm. Ce sont d'abord des relations humaines, ce sont d'abord des relations de pédagogie, si je peux dire, sur ces questions-là. C'est des relations pour sensibiliser le monde, que ce soit des gens dans les postes de gestion et direction ou des employés, des collègues, dans tous les services. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a ce qu'on est capable de mettre sur papier et il y a tout ce qui est vécu, autant par moi que par l'équipe, comme transformation et comme accompagnement de nos collègues, parce que cette transformation organisationnelle, c'en est d'abord une qui vise à faire reconnaître la dignité de certains qui ne vivent pas les choses de la même façon.
Mmh, absolument. Puis j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes justement que c'est une question de dignité et tout le vécu humain et toutes les relations interpersonnelles et tout ça qui sont mises de l'avant. Puis justement, le document, dans le fond, l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémique, ce que j'aime bien, c'est que c'est divisé en comme 7 thèmes à peu près. Donc, il y a comme la reconnaissance d'abord et gouvernance des enjeux de racisme et de discrimination. On parle d'administration exempte de racisme et de discrimination, de sécurité publique sans profilage. De l'équité culturelle, comme tu l'as mentionné, une équité territoriale économique, une participation citoyenne inclusive et des recommandations sur les enjeux vécus par les personnes autochtones. Donc, je trouve que c'est un bon... c'est un bon ça fait le tour, là. Donc, félicitations. Et puis, merci. Et puis, justement, la première recommandation, comme tu l'as mentionné, dans le fond, c'est que la ville de Montréal reconnaisse publiquement, dans les plus brefs délais, le du racisme et de la discrimination et de s'engager à le combattre. Et dans le fond, ça a été réalisé comme recommandation. Donc, tu peux nous parler un peu de comment l'impact global qu'a cette réalisation, parce que c'est la première, mais je trouve que c'est vraiment une...
Exact. C'est la plus Elle importante, est forte. Quasiment.
Voilà, c'est exactement.
C'est la plus importante. C'est, tu sais, puis J'aime parler de ces questions-là de la façon la plus humble et de la façon la plus sincère possible. La question du racisme et des discriminations systémiques, c'est une façon de dire que certaines personnes vivent des traumas en raison de la racialisation, qui est un processus social, qui est un processus historique, t'sais. Mais ce sont des traumas. Et ce qui se passe avec les traumatismes, c'est que tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne les reconnaît pas, tant qu'on ne nomme pas ce qu'ils sont et les effets qu'ils ont sur les gens, eh bien, c'est très difficile de passer à l'action. Et donc, la première des recommandations, là où elle est très, très forte, c'est que, et pour moi, je vais être sincère là, c'est un de mes outils les plus importants, cette recommandation-là. Mmh. Parce que la démarche de la consultation citoyenne, c'est c'est ce qui légitime le travail du bureau. C'est ce qui légitime le bureau, c'est la recommandation 2. Mais, mais c'est la consultation des Montréalais qui légitime mon travail. C'est-à-dire que moi, ce à quoi je m'astreins, c'est qu'on s'assure que les voix qui ont été mentionnées, en fait, qui ont été écoutées par l'OCPM, ben, ces voix-là, elles soient entendues par l'administration. Donc, dans le fond, moi, je suis comme un espèce d'écho interne et j'utilise beaucoup la phrase « je métabolise » ou « je suis là pour accompagner l'administration à métaboliser ». C'est-à-dire, il faut que ça s'incarne. Et cette recommandation 1, ce qui se passe, c'est que dans toute institution, dans toute organisation, dans toute entreprise, quand on veut changer une culture, parce que c'est un changement de culture, c'est intense là, tu sais.
Ouais, c'est beaucoup.
Si on ne nomme pas l'élément qui crée en fait du traitement différentiel, ben on ne peut pas, ça ne percolera pas. Et j'aime beaucoup ta question, j'aime beaucoup que tu commences par celle-ci parce que par exemple, il m'est arrivé durant l'année, là je vais raconter des petites anecdotes, mais il m'est arrivé durant l'année d'avoir des personnes qui sont très, très frileuses. Et puis, il ne faut pas s'imaginer que ça vient de... Parce que déjà, on a souvent des représentations sur les services qui vont être plutôt en frein. Et ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Hein. Et je me rappelle qu'à un moment donné, c'était une personne, c'était une directrice là, qui était devant moi, puis qui était très, très frileuse face au... qui arrivait et qui est un changement inéluctable. Moi, je crois que ce changement, il est vraiment juste nécessaire et il est inéluctable. Et je me rappelle que dans une des rencontres où j'arrivais juste plus, ça faisait des heures et des heures, des rencontres avec elle pour lui expliquer. Puis je lui dis, mais est-ce que tu reconnais la recommandation 1 dit qu'il faut reconnaître? Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Et je me rappelle que dans l'échange que j'ai eu avec elle, ce type d'élément est juste fondateur parce que je pense que c'est ramener les gens à ce qu'ils ne veulent plus peut-être voir ou à leurs angles morts et leur dire « It's not about me ». C'est pas Boshra qui te parle. C'est comme « Oublie Boshra ». Boshra, c'est juste de mettre le miroir que la consultation en fait a permis de révéler. Fait que moi, je trouve que cette recommandation-là, elle est clé. Pourquoi elle est clé aussi? Parce que un changement de culture organisationnelle, ça se fait. Mais si le haut n'entérine pas, si le haut n'adhère pas, si le haut ne valide pas, ne back pas cette transformation-là, c'est très, très difficile que ça percole. Et donc, moi, le pari que j'ai essayé de faire, c'est de dire, ben, c'est venu d'en haut, c'est-à-dire la direction générale a créé ce bureau. Donc moi, mon bureau, quand on regarde l'organigramme de la ville, je pense que c'est toujours important de revenir sur des choses comme ça. Structurellement, ce bureau, il est placé à la direction générale. Ce n'est pas un bureau qui est autonome. Moi, je ne suis pas, par exemple, comme l'Ombudsman ou je ne suis pas comme la CFPM qui gère la question de l'inéquité en termes de dotation. Moi, je suis à la direction générale. Donc, dans le fond, il y a la vision pour la ville, et moi, dans le fond, il faut que j'incarne que j'accompagne et que j'incarne toute la transformation sur les questions de racisme et discrimination. Et le dernier point, c'est que cette recommandation, elle est clé et elle a déjà été intégrée dans la vision stratégique de la ville sur les prochaines 10 ans. Donc, la question de la lutte, donc c'est la priorité numéro 8, là, c'est la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à l'intérieur de l'administration et dans la métropole. Et donc ça inclut les questions de profilage, ça inclut les questions d'équité culturelle, etc., etc. Et donc, moi, ce que je trouve super structurant avec cette recommandation-là, c'est que ce qu'on dit, c'est que c'est transversal. Ça concerne tout le monde, ça concerne tous les individus, ça concerne tous les employés, ça concerne tous les gestionnaires. Et que cette transformation, c'est pas vrai que c'est sur les épaules de Boshra et de son équipe. Ce qui est vrai, c'est que c'est collectif, c'est systémique, et donc tout le monde peut être aussi quelque part partie de la solution.
Je trouve que c'est important de mentionner que justement ça doit être collectif, et c'est comme la base, là, la première recommandation. Absolument. Là. C'est on commence par ça, puis après on peut continuer dans le même sens. Donc Absolument. Ça c'est super Absolument. Important. Et puis, concernant d'autres recommandations super intéressantes. Il y en a certaines qui sont encore en cours, donc je ne sais pas à quel point tu pourras nous donner des détails là-dessus, mais une question intéressante, c'est la recommandation 17.
La 17, ça c'est
super intéressante.
une des plus importantes.
Absolument, surtout en termes de profilage racial. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que, c'est ça, la commission, elle estime que le profilage racial et social sévit au sein du SPVM et que ça se constitue de la violence dirigée vers certains groupes racisés et vers les personnes autochtones. Donc, la commission recommande notamment, là, j'ai soulevé un point particulier, que la candidature retenue pour le poste de directrice ou directeur du SPVM par la Commission de sécurité publique et le Conseil d'agglomération est proposée au gouvernement du Québec soit conditionnelle à sa reconnaissance et du problème de profilage racial, en fait, sa connaissance et sa reconnaissance de ce problème et du profilage social également, ainsi qu'à sa maîtrise des compétences nécessaires pour mener un changement de culture organisationnelle. Donc ça, je trouve que c'est très, c'est vraiment marquant et comme tu l'as souligné, c'est vraiment un changement de culture. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver des personnes qui peuvent amener ce changement de culture? c'est quand même beaucoup demandé, mais c'est nécessaire là, mais comment on peut faire ça?
Suivez mon regard, comme dit l'expression. moi, je merci de mettre la lumière sur celle-ci. En fait, celle-ci, elle dit plusieurs éléments. Il y a vraiment comme un volet très intéressant dans celle-ci, parce que ce qu'elle nomme, c'est toute la question de la vie. Mais comment on incarne cette vision en termes de gouvernance? Ce qu'elle dit aussi, c'est comment on incarne ce changement en termes de pratiques organisationnelles, parce qu'elle mentionne aussi tout le volet des formations des policiers, soit à l'interne au service, soit avant que les policiers ne soient recrutés, donc que les cohortes en fait, soient intégrées au SPVM, ils passent par une école, etc. Donc, il y a aussi tout le volet de travail avec la CDPDJ. Donc, cette recommandation, elle inclut vraiment comme énormément de changements. Dans l'état d'avancement, on l'a indiqué qu'elle était en cours parce que si on regarde le volet pratique organisationnel, je vais commencer par celui-là, puis je vais revenir sur ta question juste après. C'est que si on regarde le volet pratique organisationnel, la question du profilage, par exemple, puis là, je reviens à la recommandation 1 aussi, c'est que suite à la recommandation 1, donc en 2020, la mairesse était sortie pour reconnaître et donc pour dire que la ville prenait ça au sérieux et qu'elle allait travailler sur ces questions-là. Et le lendemain, le directeur du service de police de la ville de Montréal, donc du SPVM, qui est Sylvain Caron, était aussi sorti pour dire on reconnaît qu'il y a des pratiques systémiques, qu'il y a des enjeux de racisme et de discrimination systémique au sein du SPVM. Et ça... c'est un move qui est assez important quand on regarde les villes d'une manière générale au Québec, au Canada et ailleurs. Il y a eu un move assez posé de façon assez importante. Et donc, la transformation du point de vue des questions de profilage, la formation sur le profilage, la question de la politique d'interpellation qui a été aussi mise en place tout juste après, là je pense que c'était comme juste, hein, et qui a amené tout le service de police à être formé sur la question des interpellations. Donc d'abord, il y a eu une création de cette politique, puis qui va être en transformation, hein, c'est-à-dire... la commission de la sécurité publique, par exemple, a demandé à ce qu'il y ait des sortes d'amendements ou de modifications à cette politique. Puis, dans le fond, on est 2 années plus tard et on a quasiment, je pense, 4 500 personnes qui ont été formées sur cette question-là. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que sur la question du profilage, ça se prend, entre guillemets, par plusieurs éléments. Ça se regarde par le volet des pratiques policières, donc dans le day-to-day d'un policier, tu sais, dans son interaction avec les citoyens et citoyennes. Et il y a là tout le volet d'accompagnement en termes de pratiques organisationnelles. Donc comment on forme, comment on s'assure que, par exemple, oui à la formation profilage, oui à la politique d'interpellation, mais il y a d'autres façons aussi de s'assurer qu'un policier ou qu'une policière comprennent son environnement urbain. Donc, par exemple, le SPVM, en lien avec d'autres collègues, notamment la collègue qui est commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Puis je vous invite à l'inviter aussi, c'est vraiment quelqu'un de super intéressant. Mais par exemple, en lien avec ma collègue qui travaille sur les relations avec les peuples autochtones, les policiers ont aussi été accompagnés pour mieux comprendre les réalités des autochtones en milieu urbain. Donc, tu sais, il y a tout le volet de la formation. Mais le volet de la formation ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle des pratiques alternatives. Donc, comment on s'assure, par exemple, d'avoir un volet d'intervention, mais qui soit fait de façon mixte avec nos collègues qui travaillent, par exemple, l'inclusion sociale. Donc, comment on s'assure, par exemple, que dans les cas où c'est de la santé mentale ou dans les cas où c'est plutôt de l'intervention vis-à-vis de populations urbaines autochtones, mais comment on s'assure qu'il y ait peut-être un mix des deux, que ce ne soit pas juste que le fardeau. Je ne veux pas parler de fardeau juste en tant que tel, là, mais que, si je peux me permettre, c'est comme si le fardeau ne repose pas seulement sur une intervention policière, mais qu'on puisse, en fait, prendre cela comme quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus holistique. Fait que les pratiques organisationnelles, là, c'est super important. Ça consiste aussi à se dire comment on répond à nos interventions. Comment, quand on fait de la prévention urbaine, comment peut-être on peut trouver d'autres solutions. Donc, dans la 17, il y a tout le volet formation, il y a tout le volet des pratiques alternatives et il y a effectivement le volet de comment la question du profilage doit être intégrée dans la vision même de la direction, dans la vision même de celles et ceux qui portent en fait le changement organisationnel. Puis c'est sûr qu'elle est en cours parce qu'il va y avoir dans le fond, le directeur du service de police, son mandat n'est pas terminé. Donc, c'est sûr que le volet processus de dotation, c'est ce qu'on appelle le processus de dotation, le fait d'aller procéder à une sélection, à une embauche, etc., de quelqu'un, ben, ça, c'est la partie qui s'en vient, puis sur laquelle on est plutôt en cours, en fait. On n'est pas encore, on n'en est pas là encore. Puis sur ce volet-là, ce qui est intéressant, c'est que l'OCPM, ce qu'ils ont préconisé, c'est qu'il puisse aussi y avoir une présentation de cette personne qui sera sélectionnée. Après, il y a des enjeux aussi d'éthique, de confidentialité là, qu'il faut considérer, c'est-à-dire dans un processus de dotation. Mais dans le fond, ce que la recommandation demande, c'est que les citoyens, et notamment la commission de la sécurité publique, puissent avoir une présentation de la vision de cette personne. Donc ça, c'est aussi un moment clé pour se dire, ben, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'elle propose? C'est quoi sa vision pour la sécurité publique montréalaise et pour la diversité des Montréalais qui ont tous besoin d'une sécurité publique? Puis, tu sais, pour terminer là-dessus, Lina, moi, il y a quelque chose pour moi de très, très important. Je crois qu'on doit assumer dans une métropole d'avoir une sécurité publique. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut arrêter d'opposer. C'est soit la sécurité publique, soit le profilage. Non, en fait, je m'excuse. On n'a pas besoin de choisir entre les deux. Nous avons besoin que tous les Montréalais se sentent en sécurité. Et nous avons besoin que cette sécurité publique, quel que soit l'acteur qui l'a fait, c'est-à-dire que ce soit la STM, le SPVM, les inspecteurs de l'OMHM, n'importe qui fait de la sécurité publique dans cette métropole, devrait la faire sans profilage et sans discrimination. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de dire la vision que l'on souhaite incarner comme administration, et donc c'est ça qui est de vision de directeur et directrice ou direction, c'est comment on s'assure que la sécurité publique, aujourd'hui, dans une métropole comme Montréal,
profilage,
surtout que, puis j'arrêterai là-dessus, surtout que la diversité montréalaise va continuer en augmentant. C'est-à-dire qu'avec le temps, la diversité se diversifie et le nombre de Montréalais issus des populations, soit immigrantes, soit racisées, est de plus en plus important. Fait que moi, je pense que là, il y a quelque chose à considérer, oui, pour les services de sécurité publique, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, la question de la culture, par exemple, ou la question de l'équité économique et territoriale, elle est tout aussi importante que la sécurité publique. Parce que si on veut que notre métropole bascule vers une ville plus équitable réellement et factuellement, ben, il ne faut pas qu'on regarde seulement le racisme à travers un seul prisme. Il faut regarder les éléments qui constituent le fait justement que c'est systémique.
Mm-hmm.
Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu veux que je détaille
plus
sur...
absolument. Okay, absolument, ça répond vraiment bien. Puis je pense que c'est ça ce qu'il faut prendre en note aussi, c'est que la sécurité publique, elle doit être adaptée à la réalité montréalaise et à la réalité des Montréalais et Montréalaises. C'est surtout ça qu'on est en train de dire là.
Exact. Donc, exactement. Elle doit prendre en tout cas acte de cette diversité-là.
Absolument. Puis également, il y a vraiment plusieurs recommandations. J'aurais voulu parler de comme toutes les recommandations. Et je vais en mentionner encore deux qui sont en cours. On pourra en discuter. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, la recommandation 18, parce qu'elle fait référence justement au rapport Harmonie-Hassawi-Mulonnet, oui. Qui est le rapport indépendant, dans le fond, qui nous a appris beaucoup de choses sur le profilage, sur les interpellations policières et tout ça. Donc, la commission, elle fait sienne les 5 recommandations de ce rapport-là et elle prend acte de l'engagement du SPVM de développer une politique en matière d'interpellation, comme on l'a mentionné, et afin d'en chasser les principes anti-profilage dans une telle politique, la commission recommande à la ville de s'assurer que cette politique, notamment, déclare explicitement que le profilage racial et social, c'est une violation des droits fondamentaux des Montréalaises et des Montréalais, et interdit sous peine de sanction les interpellations policières qui sont fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, la religion, la condition sociale. Donc ça, c'est deux éléments vraiment intéressants de cette recommandation-là. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter sur cette recommandation spécifiquement.
Ben, peut-être ce que je peux mentionner qui sera aussi présenté dans les prochaines semaines, parce que j'aurais dû le mentionner dès le départ, mais dans le fond, on a présenté l'état d'avancement 2021, puis dans les prochaines semaines, on va aller en discussion publique. Maintenant, c'est officiel, la date, je peux le dire, maintenant la date officielle, c'est le 29, et surtout le 29 mars, ce qu'on va faire aussi, c'est présenter les engagements de la ville pour l'année 2022. Puis là, dans le fond, ce qu'on peut déjà... d'ores et déjà mentionné, parce que ce mandat de chercheur, il est aussi une, je pense, une preuve que l'administration souhaite en fait travailler les enjeux, tu sais, de façon sérieuse. Trois chercheurs ont établi le premier portrait qui est sorti donc il y a quelque temps maintenant, mais il y a un deuxième mandat des chercheurs encore en cours. Et donc, dans le deuxième mandat des chercheurs, l'idée, c'est d'aller voir, OK, maintenant qu'on a fait cette politique, comme je le mentionnais, il y a plusieurs leviers quand on veut faire une transformation. Maintenant qu'on a fait cette politique, comment ça percole? Comment les personnes qui doivent, en fait, dans le day-to-day, la faire ce travail-là, ben, comment elles sont outillées? Dans quoi elles ont besoin d'être aidées? Par qui elles sont aidées? Puis, je souhaite mentionner qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui a été fait à ce propos. C'est que, oui, il y a eu la politique. Oui, tout le monde a été formé au sein du service de police. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'il a été créé une équipe, ce qu'on appelle une équipe de coach en interpellation.
Okay.
Cette équipe-là, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus, mais composée de 4 à 8 personnes, en tout cas 4 à 6. Moi, en tout cas, j'en ai rencontré 4. J'ai bénéficié de la présentation. Et l'objectif de cette équipe, c'est justement d'accompagner les pratiques. C'est parce que ça ne suffit pas de faire une politique puis de former le monde. C'est un peu comme le bureau. C'est de dire, OK, on a reconnu certains éléments qui peuvent nous aider, mais comment on accompagne les gens au quotidien? Quand les gens ont des questions, c'est pour se dire, attends, est-ce que là, je fais la bonne affaire? Ben, y a qui pour les accompagner? Intéressant. C'est-à-dire que quand on accompagne un changement de culture organisationnelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce savoir et du coup aussi, ben, pas seulement le savoir, mais qui porte aussi l'aptitude à aider les autres à se transformer. Puis là, dans le fond, ce qui va se passer avec le deuxième mandat, c'est qu'il y a aussi tout un travail d'analyse du travail de l'équipe des coachs, et il y a aussi comment les policiers eux-mêmes arrive à appliquer cette politique. Donc l'idée là, c'est vraiment d'analyser comment ça percole, comment ça va jusque dans les mains de celles et ceux qui sont sur la route, de ceux qui patrouillent. Fait que ça, c'est le volet de la recommandation qui est encore en cours. Donc ça va être durant l'année aussi. Sur cet élément-là, oui, c'est ça. Ce que je voulais mentionner aussi sur cet élément, puis peut-être en lien transversal avec plusieurs des recommandations de l'OCPM sur, qui, en fait, qui touchent le SPVM, c'est que, oui, il y a le bureau qui a été créé, mais le SPVM, avant même que le bureau ne soit créé, a fait appel, dans le fond, à un sociologue qui est un sociologue expert de plusieurs. Et dans le fond, lui, il a travaillé avec eux tout le volet, on va dire, racisme, discrimination, où il a essayé aussi de les accompagner sur mais comment on s'assure que cette politique fait. Il y a aussi quelqu'un qui a été sélectionné pour, en fait, dans le fond, s'assurer que certains enjeux en termes de racisme et de discrimination puissent être répondus, si je peux utiliser cette formulation. Puis, nous, dans le fond, dans le bureau, on avait un poste de... Il y a un poste de chargé d'expertise en profilage racial et social. Et dans le fond, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une transversalité. Oui, on travaille avec la STM, on travaille avec l'OMHM, on travaille en fait avec l'ensemble des acteurs qui font de la sécurité publique. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir, une perspective plus transversale et stratégique. Puis, il y a d'autres acteurs aussi qui travaillent cette du SPVM. Je pense que ce qui est important aussi à dire en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs forces vives qui mettent la lumière sur ces questions-là, puis accompagnent le service. Tu sais, c'est pas des transformations qui se font en chantonnant là. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être difficiles où il peut y avoir des freins, il peut y avoir des résistances. Mais ce qui est important, je pense, c'est que l'ensemble des services de sécurité publique, notamment au SPVM, mais ailleurs aussi là, tu sais, et à la direction générale, pour nous, cette question-là, elle est, tu sais, c'est non négociable de parler de questions de sécurité publique sans profilage. Tu sais. Puis, il y a des choses sur lesquelles je ne peux peut-être pas aller trop en détail maintenant, mais qui seront annoncées aussi dans les prochaines semaines. Mais il y a aussi des révisions en termes de gouvernance à la ville par rapport au travail justement du SPVM. Puis même à l'intérieur, il y a eu de nouvelles créations de divisions. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on a déjà annoncé, mais c'est ça, dans le fond, il y a eu aussi des créations parce que, puis je m'arrêterai là, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, ben, quand je suis arrivée à la ville, c'est sûr que moi, comme chercheur, j'analyse les choses, évidemment, aussi à travers comme la lunette systémique. Tu sais, si on veut amener une transformation systémique, qu'est-ce qu'il nous faut comme levier? Et j'ai identifié, puis ça va être plus la façon avec laquelle on va le présenter pour le plan de match de 22. Moi, j'ai identifié l'ensemble des leviers qu'on doit absolument travailler si on veut s'assurer que toute cette transformation-là se fasse. Et la question de la gouvernance, je sais que ça peut paraître un peu abstrait pour certains ou certaines, mais sincèrement, la question de la gouvernance et de comment on attache la vision à la gouvernance, elle est primordiale. Donc, je m'arrêterai là puis ça va être annoncé dans les prochaines semaines, mais il y a des éléments qui sont quand même super intéressants positionnés récemment là-dessus.
Absolument. Je suis contente que tu mentionnes aussi le fait qu'il faut aussi accompagner de manière concrète les gens, puis comme d'avoir des ressources, puis justement, les gens s'ils se posent des questions, vers qui ils se retournent. Donc, je pense que c'est ça aussi que les gens veulent entendre. Dans le fond, c'est que
absolument.
concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si on a le problème devant nous, qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Donc,
exactement.
Ça, c'est vraiment très important.
Puis, ouais, vas-y, excuse-moi. Oui,
je sais, j'adore. Si je pouvais, je parlerais de toutes les recommandations une par une, mais ça serait un peu long.
Mais petite anecdote, en train de planifier la révision de compte, moi j'ai dit on prend toute une journée pour parler, puis là les gens m'ont dit écoute Boshra, toute une journée là ça intéresse que toi.
Je pense que tu vas être toute seule.
Oui, c'est ça. Donc voilà, mais peut-être le seul élément que je voulais mentionner là-dessus, c'est que je sais que je le répète beaucoup, mais c'est un changement systémique. On a lutté tant d'années pour reconnaître que c'était systémique. C'est un changement qui est systémique et c'est un changement qui est vraiment un changement de culture organisationnelle. Puis, si on veut amener une accélération, il faut qu'il y ait des gens qui relèvent les manches et qui aillent entendre ce qu'il faut entendre et accompagner ceux qui doivent être accompagnés. Puis, tu sais, je pense que là-dessus, pour moi, c'est vraiment super important de le mentionner. Là, c'est que il y a beaucoup, beaucoup d'instituts qui ont pris leurs responsabilités récemment. Puis je pense qu'il y a comme un travail, on va dire, tu sais, collaboratif qui doit être fait. Puis ça, là, c'est un travail... je ne suis pas en train de dire que, tu sais, l'histoire de les petits pas, ce n'est pas ça que je dis, mais c'est qu'il y a... Il y a un travail d'accompagnement. Ce n'est pas parce que nous, on sait ce que ça veut dire le racisme systémique, puis qu'on est super bon dans le glossaire sur le white privilege, le anti-racism, tu sais, comme le anti-racism glossaire. Ce n'est pas parce que nous, on a, on va dire, soit travaillé là-dessus dans nos domaines d'expertise, de recherche, de compétences, tu sais, ou qu'on a cette expérience-là que tout le monde l'a. Et donc, ça, c'est super important pour moi de dire, ben, pour moi, il y a un devoir d'accompagner tout le monde. Mm-hmm. Et il y a un devoir, justement, ces traumas vécus et cette traduction-là. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important, c'est de dire, c'est un travail de traduction. Et c'est un travail de traduction là, qui est comme quotidien.
Absolument. Très, très intéressant de le voir comme un devoir de transmission et de... Parce que les gens ne peuvent pas non vraiment. Plus lire nos pensées, là, il faut exprimer
exact.
Ça.
Exact.
Donc, il faut exact. L'exprimer.
Exact. Puis ramener toujours à la question des droits, la question de la charte. Tu sais, c'est comme, c'est mobiliser vraiment des niveaux de vocabulaire et des niveaux de compréhension, des niveaux théoriques, des niveaux expérientiels très, très différents, puis en faire comme une espèce d'outillage quotidien pour accompagner les gens dans tout ça.
Absolument. Et puis aussi, je voulais mentionner pour une fondation qui n'était pas adaptée finalement, et je voulais qu'on parle un peu de comment, qu'est-ce qui se passe en fait quand une des recommandations n'est pas adaptée. Donc c'est la recommandation 25 qui nous dit dans le fond que la commission elle recommande à la ville de Montréal qu'elle entreprenne les actions suivantes d'ici l'échéance du présent mandat du directeur de la SPVM. Donc, c'est mener et publier les résultats d'une analyse éthique et criminelle en collaboration avec des équipes de recherche montréalaises avant que la SPVM déploie toute technologie de prévision policière et de reconnaissance faciale à grande échelle et d'encadrer toute éventuelle utilisation de ces technologies pour qu'elles n'amplifient pas le profilage racial et social. Donc, on a vu qu'elles n'étaient pas applicables. Considérant que la SPVM n'utilise pas de technologie de prévision policière et de reconnaissance faciale pour le moment, dans l'éventualité où ces technologies-là seraient mises en place, comment est-ce qu'on pourrait appliquer cette recommandation, toi?
Alors, dans le fond, c'est ça, c'est que les recommandations sont comme une espèce, on va dire, d'inspiration de la transformation à opérer. En réalité, ont été faites et qui ne sont même pas dans les recommandations. C'est-à-dire il y a d'autres choses qui ont pu être faites aussi par plusieurs services. Celle-ci, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que à l'heure actuelle, effectivement, il y a pas d'utilisation d'une telle technologie. Puis moi, durant l'année, j'avais été approchée par une chercheure de l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, je pense que vous travaillez ensemble aussi, parce qu'elle m'avait mentionné justement la clinique et sa collaboration avec le quartier Saint-Michel. Et dans le fond, moi, quand je l'avais rencontrée, l'idée, c'était de dire, OK, comme, qu'est-ce qui pourrait s'en venir s'il y avait l'utilisation d'une telle technologie. Fait que, dans le fond, moi, c'est une façon de travailler. C'est-à-dire, ben, peut-être que la recommandation n'est pas applicable telle qu'elle maintenant, mais si on venait à utiliser une telle technologie, c'est certain qu'on va revenir à cette recommandation-là aussi pour se dire comment on devrait la travailler, comment on s'assure de la travailler aussi, toujours avec les acteurs qui, pour moi, c'est les chercheurs et les universités. Là, je viens de ce monde-là aussi. Là, donc, pour moi, c'est aussi un milieu qui appuie les travaux de l'administration et qui nous permet de mieux travailler et de mieux documenter nos réalités, puis peut-être d'anticiper des enjeux qui peuvent être problématiques. Fait que s'il advenait que cette technologie apparaisse là, dans le circuit, c'est certain qu'on se rapprocherait de cette recommandation pour voir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Fait que moi, par exemple, il y a eu des rencontres cette année à cet effet, plutôt avec le milieu de la recherche, mais ça n'a rien donné dans le sens où c'est pas sur la table. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'on a répondu qu'elle n'était pas applicable telle qu'elle.
Mm-hmm. Absolument. Ok, oui. C'est si jamais le cas échéant, ça arrive, on pourra gérer un peu, voir c'est quoi les risques en termes de profilage, absolument, etc.
Donc, absolument, absolument. Puis tu sais, là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que faut vraiment pas croire que... c'est-à-dire qu'il y a un travail, moi à l'interne, il y a un travail aussi de... il y a déjà des connexions entre les services. Par exemple, le SPVM travaille avec le SDIS, le service de l'inclusion et de la diversité sociale. Par exemple, qu'ils ont aussi travaillé tous les volets de les équipes mixtes, les équipes où on travaille, par exemple, plus le volet itinérance ou plus le lien avec les peuples autochtones, etc. Donc, il y a une collaboration qui peut se faire. Puis moi, mon mandat, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est de dire, oh, quand il faut transversaliser entre plusieurs services sur un sujet donné, ben, on le fait, puis on essaye d'arrimer toujours le volet. Comment on fait ça sans qu'il y ait de traitement différentiel. Fait que ça c'est la job aussi que moi j'ai un peu comme vigie entre guillemets pour s'assurer que ok quand il y a des nouveaux projets, mais comment on s'assure d'avoir toujours aussi la lunette anti-racisme. Je dis pas que qu'on réussit toujours, je dis pas que c'est encore parfait, puis je pense que c'est un travail humble et d'humilité que de dire ben on essaie d'avoir le réflexe, puis on tente que tous les services à chaque fois aient le réflexe, puis c'est un chemin. Nous sommes dans ce chemin-là.
Mmh, absolument. Sur ces beaux mots, j'aimerais encore une fois te remercier, Bouchra, sincèrement. Puis je dirais peut-être à nos téléspectateurs de rester à l'affût des avancements et des travaux de la ville de Montréal. De participer à cette... de participer en fait en tant que citoyen à la vie de notre ville et de Montréal.
Absolument.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et au plaisir de continuer d'avoir ces belles discussions avec toi.
C'est un échange continu. On s'est promis de se rencontrer une première fois l'an dernier. Et pour moi, c'est, je le dis souvent, mais tu sais, moi, j'ai fait ma thèse à Saint-Michel, puis pour moi, c'est un devoir de discuter et d'avoir une conversation continue avec l'ensemble des communautés, l'ensemble des territoires montréalais. Fait que pour moi, c'est un devoir de transparence et de conversation. Et merci à vous, en fait, de me donner l'opportunité de le mentionner.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
CKUT, les vibrations de la communauté. CKUT FM 90.3.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Black Rose Books invites you to our book launch event.
Confronting Canada's Past and Europe's Forgotten Revolutions.
Happening on Sunday, May 22nd, featuring the authors and editors of
Stand on Guard for Whom?
The Fire That Time.
Insatiable Hunger.
The Forgotten Revolution.
And Black Ukraine Yesterday and Today.
Join us on live stream or in person at 2 p.m.
at the Cité des Hospitalières, 251 Pine West, Corner Park.
Free tickets are available at blackroselaunch.eventbrite.ca or visit blackrosebooks.com for more information.
This event is co-presented with the Cité des Hospitaliers en Transition and CKUT-FM.
Well, this one called the volcano eruption. Well, you see, 84 crowd of people. You know, man, have to come new. Run! Hit him. Nobody move. Nobody get hurt. Nobody move. Nobody get hurt. The youth, them just are dressed up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resembles dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is your number? I still don't answer. What is your number, boy? I really don't answer. In crank up, in trapper. Me mama, then me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW, what you want? 64, 46, BMW, Lord. He said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it name. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not the Donian jackal, not the Donian dirt. He come from the planet of Earth. He come from the planet of Earth. Say granny in the kitchen, I cook rice and chicken. The jet out a door, I cook a eat a soup. No trouble granny, granny never trouble you. Not the cook up in my tals too. He aim, nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth, them are dressed up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resemble dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is the number? I still don't answer. What is the number, boy? I really don't answer. In crank up, me chopper. Me mama, let me start to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW. What you want? 64, 46, that a BMW. Lord. He said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it him. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not the Donian jackal, not the Donian dirt. He Donian jackal, not the Donian dirt. He come from the planet of Earth. Cause not he come from the planet of Earth. Cause things me used to do, me not go do it no more. So do me not go to eat no more. The ear it changed to 84. But here yellow man come fi tell you the score. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way. I ain't gonna...
As a campus and community radio station, CKUT's mandate is to provide an essential service to those in the Montreal community whose needs are not met by mainstream commercial radio. CKUT is radio by and for the community and is produced entirely by volunteers. Opinions expressed on the show you're about to hear do not necessarily reflect the opinions of CKUT at large. If you have feedback about anything you hear on CKUT, please get in touch with us at procom@ckut.ca with the specific feedback and the date and time of the show it's about. That's procom@ckut.ca.
Thank you. see.